Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, l'histoire du Brexit est à un tournant. Ce mercredi 15 novembre, 4 ministres démissionnent à Londres. Theresa May secouée au Parlement, le chef des travaillistes dénonce l'accord trouvé avec les Européens. La première ministre britannique peut-elle tenir? Nous sommes à Londres dans un tout petit instant. Les dons aux associations en baisse en France, plus de 6% de baisse au premier semestre. On connaissait ce chiffre, le Secours Populaire en souffre au moment de lancer la collecte de Noël. Son président reçoit des lettres de retraités donateurs qui jettent l'éponge.
Par exemple, voilà, depuis l'augmentation de la CSG, je ne peux plus répondre maintenant à vos appels, excusez-moi.
Voilà, le malaise sur le pouvoir d'achat se voit à travers les Pères Noël verts du Secours Populaire et les Gilets jaunes, bien sûr, la journée de samedi. Édouard Philippe et Emmanuel Macron se sont adressés aux manifestants hier. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Que retient-on, Yael, des mots et propositions de nos deux principaux dirigeants hier?
Compassion et compréhension, exprimez-vous, manifestez, c'est votre droit. L'exécutif choisit la manière douce avant l'épreuve de force. Mot bleu pour Gilets jaunes.
Dans ce journal encore, l'histoire d'un homme devenu femme qui a une petite fille de 4 ans. La cour d'appel de Montpellier lui accorde le statut de parent biologique, ni père ni mère. Hélène Chevalier nous expliquera. Très forte baisse du nombre de morts sur la route en octobre, moins 14%. Y a-t-il déjà un effet 80 km/h? Une autre donnée interpelle, le nombre de piétons tués n'a jamais été aussi élevé. L'invité de ce journal est Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière. La sécheresse en France, c'est l'un des fils rouges de la journée. Sur France Inter, encore 30 départements en restriction d'eau. Nous irons dans le Doubs et en Haute-Savoie. La météo, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
La grisaille résiste au nord, Elodie.
Eh oui, des frontières du nord au bassin parisien, dans le Val-de-Saône également, sur le Languedoc-Roussillon, du gris aussi, de la pluie. Ailleurs, le soleil a l'avantage ou alors le reprend doucement. C'est trop juste sous la grisaille avec 8 degrés à Strasbourg, 11 à Paris, mais c'est doux ailleurs, 21 à Biarritz.
Vanessa Paradis vous fait un cadeau toute la journée sur Inter, la présentation en avant-première de son nouvel album. Quelques extraits dans ce journal. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Depuis le temps que la tempête était annoncée à Londres, la capitale du Brexit, eh bien elle est arrivée ce matin. Alors rappel rapide de deux épisodes précédents. La signature d'un projet d'accord sur le Brexit entre négociateurs européens et britanniques. Il maintient assez largement le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'Europe. Cela pour éviter le retour d'une frontière en Irlande. Hier, réunion interminable et pénible du gouvernement britannique. Theresa May semblait avoir l'aval de son gouvernement. Et puis patatras ce matin, bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
4 démissions au sein du gouvernement et voilà Theresa May obligée de se défendre en ce moment même au Parlement.
Absolument, elle n'a d'ailleurs probablement pas beaucoup dormi. Theresa May, arc-boutée à la tribune face aux députés, les traits tirés, commence par critiquer le bilan de son prédécesseur, David Cameron. Lorsque je suis arrivée à ce poste, dit-elle, il n'y avait aucun plan pour le Brexit. Elle durcit ensuite le ton pour demander aux députés de la soutenir.
Monsieur le Speaker, le choix est clair. Nous pouvons choisir de quitter sans accord et risquer qu'il n'y ait pas de Brexit du tout. Ou nous pouvons choisir... Nous pouvons choisir de rester unis et de soutenir le meilleur accord qui ait été négocié. Cet accord maintient la liberté de circulation, nous permet de reprendre le contrôle de nos frontières et de nos monnaies, créer une zone de libre-échange pour les biens, conserve une politique agricole et de pêche commune, permet une politique étrangère et de défense indépendante, tout en maintenant une coopération sur la sécurité.
Vous entendez l'ambiance, mais cet argument qui consiste à dire « ce sera ma solution ou le chaos », c'est tout ce qui lui reste à Theresa May. Les 4 démissions de ce matin l'ont considérablement affaibli. Le coup le plus dur, évidemment, c'est le départ de Dominic Raab, le ministre du Brexit, parce que c'est lui qui devait l'aider à convaincre les députés d'accepter l'accord négocié entre Londres et Bruxelles. Et bien, dans sa lettre envoyée à la Première ministre, il explique que le texte menace l'intégrité du pays, un texte qui est surtout, dit-il, inconciliable avec les promesses faites aux électeurs.
À propos de chaos, Antoine Gignot, est-ce qu'elle peut tenir Theresa May dans ces conditions?
C'est toute la difficulté. La possibilité d'une démission se rapproche de plus en plus. Pour pouvoir organiser un vote de défiance, il faut ici que 48 conservateurs envoient une lettre au comité qui régule le parti conservateur. L'eurosceptique Anne-Marie Morris affirme que le seuil a été atteint. Il faudrait donc maintenant que ce comité appelle un par un les députés pour qu'ils confirment leur volonté de déclencher la procédure. Le suspense peut durer encore quelques jours, mais c'est sûr, Theresa May est sur la sellette.
Antoine Antoine, restez avec nous. J'ai encore une question à vous poser. D'abord, nous allons à Strasbourg, parce que pendant ce temps, une partie des dirigeants et élus européens font comme si de rien n'était. Cette déclaration d'Angela Merkel, par exemple, il y a quelques minutes, elle se dit très contente qu'un accord ait été trouvé. Elle fait allusion à l'accord entre les négociateurs européens et britanniques. Johanna Hochstein, vous êtes au Parlement de Strasbourg, où les députés sont en session. Quel climat, Johanna ?
Alors, une conférence de presse vient de se terminer, conférence de presse un peu surréaliste. Ni Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Union européenne qui a fait le déplacement, ni le président du Parlement européen, Antonio Tajani, n'ont évoqué les démissions en cascade côté britannique. Ils ont fait, comme vous le disiez, comme si de rien n'était. Michel Barnier s'est contenté de préciser qu'il fallait rester calme et méthodique pour la suite des négociations sur le futur des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. En fait, le seul qui a accepté de réagir sur le sujet, c'est le coordonnateur sur le Brexit au Parlement européen, Guy Verhofstadt.
Il faut espérer que le bon sens l'emporte au Parlement britannique. Et ils vont faire leur vote le 6 décembre. Donc il va y avoir encore beaucoup de rumeurs qui vont tourner, peut-être encore des démissions. Je n'en sais rien. À la fin, c'est à eux de prendre la décision. Ce qu'on ne va pas faire, c'est de chaque fois, quand il y a une démission ou la pression augmente, de recommencer les négociations. Les négociations ont été faites, ont été terminées. La seule chose qui doit encore être précisée, c'est cette relation qu'on va avoir dans l'avenir, où aussi, nous, on dit, pas question de mettre en danger le projet européen dans cette relation.
Et les uns et les autres ont donc précisé le calendrier comme si de rien n'était. Donc, le Parlement validera l'accord de retrait au début de l'année prochaine.
Merci Johanna Hochstein au Parlement européen de Strasbourg. Antoine Gignot à Londres, on vous retrouve. On a beaucoup parlé politique avec vous il y a deux minutes. Dans le pays, ce jour crucial pour le Brexit, comment le vit-on ? Est-ce que c'est le feu ?
C'est le feu, surtout dans le clan des eurosceptiques. Il y a eu une véritable colère ce matin qui s'affiche d'ailleurs à la une des tabloïds. Le Daily Mail, le Sun parle de trahison, de situation catastrophique. Parce qu'en réalité, Theresa May ne pouvait que décevoir. Elle a passé 2 ans à promettre de concilier l'inconciliable. Elle voulait s'éloigner des institutions européennes. Mais en même temps, elle accepte que la Cour de justice européenne garde un rôle d'arbitre. Elle a promis de reprendre le contrôle des lois. Mais elle reconnaît qu'il va falloir suivre les réglementations de Bruxelles. En fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui aurait dû se produire au mois de septembre 2016, juste après le Brexit. Theresa May avait réuni ses ministres dans sa résidence de Chequers pour tenter de trouver une position commune sur le Brexit. Elle n'y est pas parvenue à l'époque et aujourd'hui, eh ben, c'est comme un château de cartes. Tout est en train de s'écrouler. Commentaire de l'opposition travailliste, le gouvernement est en plein chaos.
Antoine, prenez des forces, hein. On va vous entendre souvent, je pense, dans les semaines à venir sur France Inter, date théorique du Brexit, le 29 mars 2019.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
C'est l'histoire marquante de cette fin de semaine. Affaire isolée, mais qui dit à quel point les définitions de la famille et de la parentalité sont bousculées. La Cour d'appel de Montpellier a accordé hier au père d'une petite fille de 4 ans le statut de parent biologique. Il est devenu femme lorsque l'enfant a été conçu, il en a été le père biologique, mais il voulait être reconnu comme maman de l'enfant. La cour d'appel a refusé, mais elle lui accorde donc ce statut de parent biologique, parent neutre, Hélène Chevalier.
Jusqu'ici, pour l'état civil, il n'existait que 2 statuts, celui de père ou de mère. Mais aux yeux de l'état civil, Clarisse, cette femme transgenre, ne pouvait apparaître en tant que père puisqu'elle était reconnue comme femme depuis 2011. Mais elle ne pouvait pas non plus apparaître comme une deuxième mère car c'est contraire au droit français. Les juges ont donc créé une nouvelle catégorie. Aude de Narnaud est une des 2 avocates du couple.
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier ordonne la retranscription de madame, anciennement monsieur, en qualité de parent biologique. Cette nouvelle création en droit sur l'extrait d'acte de naissance est une victoire et une avancée pour les personnes transgenres.
Aussi novatrice qu'elle soit, cette création d'un nouveau statut ne pourra pas servir dans les cas de reconnaissance de parenté pour ce qu'on appelle les parents d'intention, les compagnes ou compagnons d'un parent biologique, dans le cadre de GPA ou de PMA, explique Laurence Brunet, juriste spécialiste de la famille.
Les juges ont pris leur précaution puisqu'ils ont fermé la porte à toute interprétation trop large de cette notion de parenté, à la notion de parenté d'intention, puisqu'ils ont bien dit qu'il y avait un lien biologique avec l'enfant, puisque cette femme avait procréé cet enfant avec ses organes génitaux de son genre antérieur.
Le projet de loi bioéthique prévu au printemps prochain devrait se pencher sur ces problèmes de filiation liés à ces nouvelles parentalités.
Voilà pour ces précisions d'Hélène Chevalier. Le chiffre de la matinée, c'est le suivant, -13,8%. Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine en forte baisse en octobre cette année par rapport à l'année dernière. Nous en parlons avec l'invité de ce journal. Bonjour Emmanuel Barbe.
Bonjour.
Délégué interministériel à la sécurité routière. 275 personnes tuées sur les routes en octobre cette année. C'était 319 l'année dernière, donc baisse de près de 14%. Comment expliquer cette forte baisse ?
C'est difficile parce que nous avons à ce moment de l'année des données brutes, non analysées. Nous avons, par le fait qu'il y a beaucoup d'automobilistes en moins qui ont été tués, l'espoir que c'est aussi la mesure d'abaissement des vitesses à 80 qui agit. Mais vous savez, les causes d'accidents sont variables. Certains ont parlé aussi de l'augmentation du prix de l'essence qui pourrait avoir fait qu'on a roulé moins. Là aussi, avant d'en parler, il faut le vérifier. On a des chiffres un peu plus tard en 2019 qui nous permettront de le dire. La seule chose, c'est que je m'en réjouis parce que c'est le sens de l'action du gouvernement en matière de sécurité routière, éviter les morts et les souffrances.
Données brutes non analysées, Emmanuel Barbe, ça veut dire que les premières tendances sur le 80 km/h sont bonnes, mais que vous ne pouvez pas encore l'affirmer à 1000%.
Disons qu'on a l'habitude de fournir des chiffres totalement scientifiques, incontestables, et que là, on ne pourrait pas le faire.
Mais les premières tendances sont là.
On peut espérer que c'est le cas et on aura en tout cas des chiffres analysés en géolocalisant les accidents à partir du mois de janvier, quand on pourra voir quels accidents ne se sont pas produits sur le réseau 80 alors qu'ils se produisaient sur le réseau 90, tout simplement parce que c'est une mesure anti-accident.
Alors les chiffres, ils sont difficiles à lire pour deux raisons. D'abord, il y a eu une forte hausse du nombre de morts en septembre et en ce mois d'octobre, on dit donc que le nombre de morts est en forte baisse, mais il y a une hausse des blessés. C'est difficile à lire tout cela, hein.
Oui, bien sûr. C'est vrai que normalement, dans le cours des choses, quand on évite des accidents, il y a un certain nombre d'accidents qui, de mortels, deviennent corporels. En tout cas, ça s'est analysé dans les baisses de vitesse qui se sont faites. Mais je le répète, à ce stade de l'année, d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir en parler, mais on peut pas fournir beaucoup d'informations. Je comprends que ce soit frustrant, en définitive.
Alors, je vais tenter une autre question, parce qu'il y a un autre chiffre qui intrigue, la mortalité des piétons. La plus élevée depuis 10 ans pour un mois d'octobre. Est-ce que là, vous avez au moins des pistes d'explication ?
Alors c'est vrai que normalement, on est plutôt sur une moyenne de 48 hein, sur les 10 dernières années. Donc là, on est à 60, c'est beaucoup. Ce serait un peu tentant de dire le développement presque anarchique de beaucoup de moyens de transport en
les
ville.
Les trottinettes, les monoroues, les vélos dans tous les sens, sur les trottoirs.
Je comprends que la question soit à vos lèvres, mais je vais vous faire la même réponse. À ce stade, je ne peux pas vous le dire. J'ai pas suffisamment d'éléments d'analyse dans les fichiers pour savoir où se produisent ces accidents pour le dire. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que chacun soit conscient qu'il est acteur de sa propre sécurité et que donc notamment ceux qui utilisent ces moyens de transport qu'ils soient très prudents parce qu'ils sont peu visibles, c'est pas très stable et faut attention. Mais peut-être que c'est pas ça. Donc je reste prudent.
Est-ce que le délégué interministériel à la sécurité routière que vous êtes plaide pour une modification des règles et une clarification des règles à propos justement de tous ces instruments de transport en quelque sorte qui pullulent sur nos trottoirs dans nos rues ?
Juste un haut fonctionnaire, mais le pouvoir politique a déjà décidé, puisque Madame Borne a annoncé à l'Assemblée que nous allons bientôt faire des règles. On y travaille, c'est assez compliqué, mais on voudrait arriver rapidement à des règles qui soient justement compréhensibles.
Merci Emmanuel Barbe d'être venu dans les studios de France Inter. Nous en venons à la question du pouvoir d'achat et des manifestations de samedi qui se préparent. Un petit détour d'abord, quoique, pour comprendre au moins en partie les gilets jaunes, il faut aller voir les Pères Noël verts. Cela permet aussi de comprendre les critiques encaissées par Emmanuel Macron la semaine dernière dans le Nord-Est sur le pouvoir d'achat et le niveau de vie des retraités. Le Secours Populaire vient de lancer, comme chaque année, son opération Père Noël vert, collecte d'argent, de jouets, de produits pour que les familles pauvres puissent profiter un temps soit peu de Noël. Marius Delaunay, les dons sont en baisse cette année, les retraités en particulier donnent moins, or ils sont importants pour le Secours Populaire.
82% des donateurs du Secours Populaire sont des retraités qui, depuis quelques mois, envoient régulièrement des lettres à Julien Lopretre, le président de l'association.
Je pourrais en lire un ou deux si vous voulez. Par exemple, avec l'augmentation de la CSG, il m'est impossible de continuer à participer. Bon, un autre qui met « Depuis l'augmentation de la CSG, je ne peux plus répondre maintenant à vos appels, excusez-moi ».
Et ces donateurs résignés sont loin d'être des cas isolés.
Nous avons plus de 600 comités en France et tous nos comités nous disent la même chose. Et effectivement, c'est une difficulté supplémentaire. il faut qu'on mouille la chemise, comme on dit.
De manière générale, les Français donnent moins cette année. La faute aux récentes réformes fiscales, selon Laurence Lepetit, délégué général de France Générosité, le syndicat des associations caritatives.
Nous avons 6,5% de baisse de la collecte sur le premier semestre 2018. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas connu une baisse de cette ampleur et elle s'explique effectivement par la hausse de la CSG, mais qu'on explique également par la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière qui a impliqué une baisse de 150 millions d'euros pour les fondations collectrices.
Le prélèvement à la source, qui sera mis en place à partir du 1er janvier, inquiète aussi les donateurs. À tort, selon Laurence Lepetit, les réductions fiscales sur les dons faits en 2018 seront bien maintenues.
Les inquiétudes sur le pouvoir d'achat et les prix du carburant. Alors, quelle sera l'ampleur de la mobilisation des Gilets jaunes samedi? Pour l'instant, c'est difficile de le dire, précisément. Il est question de quelques 700 actions de blocage sur les rocades, les ronds-points à l'entrée des villes, des stations-service. On en saura plus ce soir, date limite pour le dépôt des demandes d'autorisation de manifester. En tout cas, d'ores et déjà, cette journée a un impact politique important. Elle est au cœur des débats depuis plusieurs jours. Et elle a amené et le Premier ministre et le Président de la République à intervenir dans les médias hier. Yaël Gauz, comme promis, vous êtes avec nous, chef du service politique de France Inter. Le ton du Président, notamment, s'est nettement adouci.
Oui, comme une pommade après la menace. Il y a deux jours, le premier flic de France, Christophe Castaner, était dans l'avertissement musclé, vous vous souvenez. Nous interviendrons partout où il y aura blocage. Aujourd'hui, le champ lexical a changé. C'est celui de la compassion et de l'empathie.
Moi, j'entends la colère et je pense que c'est un droit fondamental dans notre société de pouvoir l'exprimer.
Nous respectons évidemment l'expression du droit d'être en désaccord.
Et je suis certain que les gens, la colère de ceux qui vont aller manifester samedi, elle respecte aussi ceux qui n'iront pas manifester.
Dans l'ordre, le président, le premier ministre et le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux ce matin sur Inter, des mots pour apaiser, tenter d'apaiser, précisément parce que l'exécutif ne sait pas à quoi s'attendre. Expectative et vigilance, voilà ce qu'on dit à l'Élysée, tout faire pour que rien ne dégénère. Des mots non violents pour éviter la violence en retour. Tout cela va de pair avec le mea culpa présidentiel d'hier soir sur le porte-avions Charles de Gaulle. Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Compréhension à l'égard des Français confrontés aux soucis du quotidien, injonction passée aux ministres et aux directeurs d'administration pour qu'ils aillent eux-mêmes les écouter sur le terrain et faire leur propre itinérance, modestie, humilité dans les mots, c'est nouveau, ça tranche avec le Macron premier de cordée, sûr de lui des débuts. En réalité, la volonté réformatrice est intacte, pas d'inflexion, mais pour réformer, il faut un minimum de soutien dans l'opinion. Or, la cote d'alerte n'est pas loin. Opération correction pour ne pas obérer la suite.
Allez, encore un extrait de l'interview d'Emmanuel Macron hier. Plaidoyer pour une armée européenne.
Quand on doit protéger nos partenaires européens, la Finlande, la Pologne, la Grèce ou la Turquie, ceux qui sont aux confins de l'Europe et qui sont parfois à côté de puissances avec lesquelles nous discutons tous les jours. Trop souvent, nous nous retournons vers les États-Unis d'Amérique. Ça n'est pas bon pour notre crédibilité, ça n'est pas bon pour l'unité de l'Europe. C'est ça la souveraineté.
Et la puissance à laquelle le président fait allusion ici, c'est la Russie. Mais dans d'autres interviews, il évoquait également la Chine ou même les États-Unis, ce qui a mis Donald Trump en colère. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Comment ça se passe ailleurs en Europe? Chronique chaque jeudi dans ce journal de 13h. Cette semaine, donc, cette question de l'armée européenne, une vraie armée européenne. Qui est pour, qui est contre? Les pour d'abord, Delphine.
Mais bien la France, bien sûr, et l'Allemagne. Angela Merkel en parle aussi pour la chancelière allemande. Ça répond à des inquiétudes sur l'allié américain plus très fiable. Depuis 1945, la défense allemande est prise en charge par d'autres, les États-Unis, l'OTAN, mais avec le risque de terrorisme, les crises migratoires et militaires et surtout l'arrivée de Donald Trump, la donne a changé, dit-elle.
Voilà les pour, France-Allemagne, qui est contre?
La plupart des pays d'Europe centrale et orientale, la Pologne, les États baltes, les pays scandinaves, ils sont tous très réticents à l'idée d'un commandement stratégique européen face à la Russie. L'engagement des États-Unis, c'est la condition sine qua non pour garantir leur sécurité. La Pologne particulièrement a peur que ça ne gêne sa relation avec le grand frère américain. Même en matière d'achat d'armement, il n'y a pas vraiment de réflexe européen. On le voit bien avec le choix récent par la Belgique des avions de combat F-35 américains. La plupart des pays en Europe continuent d'ailleurs d'acheter une bonne partie de leur équipement militaire outre-Atlantique.
Autre façon d'aborder le sujet, Delphine, quelles dépenses nos voisins consacrent-ils à la défense?
Eh bien en France, hors pension, attention, les dépenses militaires représentent 1,6% de la richesse, c'est-à-dire 478 euros par habitant si on prend le périmètre de l'OTAN. Seul le Royaume-Uni fait un effort plus important, 760 euros par habitant. Au total, les trois quarts des dépenses militaires en Europe se concentrent sur six pays, le Royaume-Uni, la France donc, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. La moyenne en Europe, c'est de consacrer moins de 1% aux dépenses militaires. On est très loin derrière les États-Unis, 4,5%, environ 1 900 euros dépensés par habitant. Selon certains experts, Emmanuel Macron fait d'ailleurs plutôt allusion à la coopération européenne entre les 28. C'est la politique de sécurité et de défense commune, rien à voir avec une véritable armée, disent-ils. Les Européens ont déjà beaucoup de mal à s'entendre sur la gestion des migrants. On voit mal comment ils parviendraient à trancher des questions aussi difficiles que le feu nucléaire ou le commandement d'une telle armée.
Comment ça se passe ailleurs en Europe? La chronique de Delphine Simon, chaque jeudi dans ce journal de 13h. Merci Delphine. C'est l'un des fils rouges de la journée sur France Inter, la sécheresse en France. Oui, oui, au beau milieu du mois de novembre, le cocktail terrible de ces derniers mois fait toujours des ravages. Trop de pluie l'hiver et le printemps dernier, et puis rien ou très peu depuis. Il y a encore des restrictions d'eau dans une trentaine de départements, il y en a eu jusqu'à 60 concernés. Parmi les 30, il y a la Haute-Savoie. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
C'est là que vous êtes allé en reportage pour France Inter, la Haute-Savoie. Alors on a déjà parlé dans ce journal de 13h du lac d'Annecy au plus bas depuis 70 ans. Vous Adrien, vous êtes allé à la Clusaz. Le maire et les habitants de la Clusaz seront bientôt confrontés à un dilemme.
Oui, actuellement la ressource en eau est gérée équitablement entre habitants, agriculteurs, industriels et professionnels des sports d'hiver. C'est ce que la mairie a tenu à expliquer hier lors d'une réunion publique d'information. Comme beaucoup de stations de ski, la ville a construit des réserves d'eau afin d'alimenter, en théorie, les canons à neige. Et cette année, à cause de la sécheresse, pour le maire André Vitos, c'est priorité aux habitants.
Cette eau ira en priorité à l'utilisation humaine et on ne fera de la neige qu'avec le surplus. Parce que faire de la neige et ne pas pouvoir donner à boire aux gens, ça veut dire que l'on n'aura personne dans notre station. Donc ça ne sert à rien de faire de la neige.
Position vertueuse mais tenable, combien de temps? Car les sécheresses sont de plus en plus régulières. Les stations investissent alors en équipement, plus de réserves, plus de canons, aidés de subventions de la région pour sauvegarder les sports d'hiver, activités économiques majeures. Mais comment donc assurer un partage équitable sur le long terme, partout en Haute-Savoie? C'est la question qui inquiète notamment Jean-Pierre Crouzat de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature.
On va probablement vers des sortes de conflits d'usage de l'eau, avec des difficultés croissantes. On va vers une raréfaction de la ressource en eau, des usages qu'il faut modérer, notamment l'eau que l'on peut stocker en montagne, et on le comprend parfaitement, il ne faudrait pas que ça contribue à mettre à sec les cours d'eau, notamment ceux qui alimentent le lac d'Annecy.
Les associations écologistes demandent donc que tout le monde se mette rapidement autour d'une table pour une gestion de l'eau raisonnée et faire cohabiter écologie et économie, ce qui n'est pas toujours simple.
Merci Adrien Toffolet. Et bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Les principales victimes de la sécheresse sont les agriculteurs, bien sûr, les grandes cultures, l'élevage. Alors avec vous, nous allons dans un des pays du Comté. Vous étiez, Manuel, ce matin à la Sommette, sur les premiers plateaux du massif du Jura, dans le Doubs, à 700 mètres d'altitude, avec un éleveur laitier qui a déjà du mal à nourrir ses bêtes alors qu'on n'est même pas entré dans l'hiver.
Absolument, chez Jean-Marie Guinchard. En entrant dans le bâtiment où il abrite ses jeunes bêtes, les autres sont dehors, on comprend tout de suite les problèmes d'aliments.
Donc ici, les toutes jeunes sont au foin. Et vous voyez, déjà plus loin, on va s'avancer. Les plus grosses jeunisses, donc, qui sont déjà rentrées, sont à la paille.
Et la paille, c'est le régime sec, bien moins nutritif que le foin. Mais comme dehors, les pâturages sont grillés et ne nourrissent plus les animaux, il a bien fallu s'adapter.
Nous avons tapé dans les stocks, ce qu'on appelle taper dans les stocks, dans la récolte. Nous avons complémenté davantage avec des concentrés, nous, un mélange de soja et de céréales. Et puis nous avons accepté aussi une baisse de production laitière de 20 à 30% suivant les mois, parce que les vaches n'étaient pas nourries suffisamment.
Et encore, Jean-Marie Guinchard a anticipé. 2017 était une bonne année en fourrage pour lui. Au lieu de vendre, il a stocké de quoi nourrir ses 65 laitières pendant au moins un mois et demi supplémentaire.
Je pense qu'il faut aller sur une agriculture autonome, qui est responsable bien sûr de l'environnement, autonome et économe. Il faudra sortir de cette compétition, de ce productivisme. Il ne faut pas avoir trop grand, ce que j'appellerais système plus extensif par rapport à l'intensif.
Et il conclut, demain, on ne pourra plus faire notre métier comme on le faisait hier.
Merci Manuel Ruffez en direct de la Sommette dans le Doubs. La sécheresse, on en reparle à 19h20 dans le téléphone sonne avec Fabienne Sintès et ses invités. Et puis c'est sur franceinter.fr. Sandy Dauphin, notamment spécialiste des questions d'environnement à France Inter, nous dit que la sécheresse actuelle, ce n'est qu'un début. La saison des prix littéraires continue. Le Goncourt des lycéens, jury constitué de 2000 élèves. Le gagnant, on le sait depuis quelques minutes, eh bien c'est David Diop pour Frères d'âme aux éditions du Seuil, l'histoire de ce soldat africain qui devient fou dans les tranchées de la guerre de 14. David Diop, c'était l'un des favoris des principaux prix d'automne. Il n'avait rien eu pour l'instant. Eh bien, il a le Goncourt des lycéens. Alors, content ?
Je suis extrêmement heureux. Je l'ai dit aux lycéens et aux lycéennes qui m'ont choisi. C'est magnifique pour moi.
Qu'est-ce qui, selon vous, a pu séduire les lycéens dans ce récit qui nous ramène maintenant un siècle en arrière ?
Je pense qu'il y a une transversalité de l'émotion qui est possible, puisque la majorité des jeunes gens qui sont allés à la guerre, eh bien, avaient l'âge des lycéens, ou un peu plus, hein, 20 ans pour la plupart. Et il y a peut-être eu un phénomène d'identification, et puis aussi parce que c'est un texte qui parle d'amour, et la jeunesse bien est sensible à l'amour, et c'est un texte qui parle enfin d'amitié, et la jeunesse est toujours très sensible à l'amitié. Une amitié de jeunes gens de 20 ans qui connaissent mieux la mort finalement que la vie.
David Diop avec Ilana Mor-Youssef, il ira à l'Élysée recevoir son prix ce soir. Le nouvel album de Vanessa Paradis sort demain, mais dès aujourd'hui, vous pouvez le découvrir sur France Inter et franceinter.fr. Cadeau, oui, c'est ça. Au fil de la journée, la chanteuse présente elle-même les titres, ce disque, les sources. Prochain rendez-vous dans la tête au carré de Mathieu Vidard entre 14 et 15 heures. Pour l'instant avec vous, Corinne Pellissier, regard global sur cet album.
Pour son 7e album, Vanessa Paradis rêvait d'un disque lumineux à son image. Une femme heureuse et amoureuse qui n'a pas peur d'évoquer publiquement son bonheur avec Samuel Benchetrit qui a écrit pour elle la plupart des morceaux.
De fière, de chaleur glacée.
La souffrance d'une vie blessée, le manque de l'autre dans Kiev, ou ces mots simples à celle qui est devenue son épouse l'été dernier.
Je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent, que l'hiver soit aux amants. Je voudrais, pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois. En ne pensant qu'à toi.
Les sources est sans doute le disque le plus personnel de la carrière de Vanessa Paradis. Des mélodies aux accents soul remplies de cuivre et des textes en forme d'invitation à l'amour et au voyage, comme ce morceau en italien. Titres au total enregistrés à la célèbre Sound Factory de Los Angeles, studio dans lequel se sont succédés avant elle les Jackson 5, Kezia Jones ou Brian Wilson.
Et les principaux titres sont égrenés au fil de la journée. Vous pouvez déjà les écouter sur franceinter.fr avant un concert exceptionnel de Vanessa Paradis à la Maison de la Radio le 27 novembre. Un tout dernier chiffre avant la météo. Pas trop d'autosatisfaction. On vous a beaucoup parlé des sondages. Ils sont très bons. Je vous dis juste que vous êtes 1 362 000 à écouter ce journal de 13 heures. 105 000 de plus qu'il y a un an. Merci, merci.
La météo avec Préfonds. Pour une retraite augmentée, le futur se prépare maintenant. Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Plus d'infos sur préfonds-retraite.fr.
1 300 000 auditeurs, combien de nuages, Élodie Calac ?
Entre le nord de la Seine, le bassin parisien, la Champagne, l'Alsace, ces maussades, les nuages bas résistent. C'est le cas aussi dans le Val-de-Saône. C'est nuageux entre les Pyrénées, le Limousin et la Provence. Sur le Roussillon, on a des pluies, parfois un orage, quelques pluies aussi pour le Languedoc. Le vent d'autant souffle jusqu'à 60-70 km à l'heure sur les hauteurs du Tarn. Sur le nord-ouest, des éclaircies. Il peut rester quelques plaques de grisaille malgré tout. Ailleurs, le soleil s'impose, les températures évoluent en fonction de la grisaille, pas plus de 8 degrés à Strasbourg, 11 à Reims, Paris, mais 17 degrés à Cherbourg, Nantes, Bourges, Lyon, 20 du côté d'Agen, de Marseille, d'Ajaccio, 21 à Biarritz. Demain, il faudra encore composer avec la grisaille, elle aura parfois bien du mal à se morceler.